Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Creedence Clearwater Revival. Pour moi, c'est avec eux que tout a commencé, cette passion pour la musique pop, comme on disait à l'époque, et qui était en fait une musique inspirée fortement du blues. Creedence Clearwater Revival, souvent appelé Creedence ou CCR, était un groupe de rock américain actif à la fin des années 60 et au début des années 70. Il était composé de John Fogerty, chanteur principal, guitariste principal et auto-compositeur principal, de son frère, le guitariste rythmique Tom Fogerty, du bassiste Stu Cook et du batteur Doug Clifford, surnommé Cosmo. Ce détail va être important très rapidement. Ils jouaient ensemble depuis 1959, d'abord en tant que Blue Velvets, puis en tant que Collywogs. Leur style musical englobait des racines rock, swamp rock, ou rock des marécages, et blues rock. Tout cela donnait une sorte de rock sudiste, malgré leur origine des environs de la baie de San Francisco. Les paroles de leurs chansons parlaient des bayous de la Louisiane, de poissons-chats, du fleuve Mississippi et d'autres éléments populaires attachés au sud des États-Unis. Ils ont aussi créé des chansons d'essence politique ou sociale, notamment sur la guerre du Vietnam. Avec la sortie de Cosmos Factory en juillet 1970, et vous comprenez l'allusion avec le surnom de Doug Clifford, le batteur, Creedence Clearwater Revival a atteint son zénith commercial. C'était leur cinquième album en 2 ans et il est devenu un hit international en tête des charts dans 6 pays. Le groupe a également effectué une tournée en Europe en 1970, jouant en particulier au Royal Albert Hall devant un public enthousiaste. Il est devenu le groupe le plus populaire d'Amérique en ignorant largement le comportement sous-acide des autres grands groupes de l'époque. Mal aimé de l'intelligence pop-rock, Creedence a suivi son chemin, son propre chemin, grâce à la détermination de son leader, ce qui malheureusement commença à agacer ses compagnons de route assez rapidement. Keep on jubilant, jubilant, jubilant. Keep on jubilant, keep on jubilant. Après 4 albums contenant des tubes qui ont marqué l'histoire de la pop, le groupe était rentré en studio pour enregistrer leur 5e album. Et le nom de l'album, Cosmos Factory, vient de l'entrepôt de Berkeley où le groupe a répété au début de sa carrière en Californie. Il a été surnommé The Factory ou l'usine par le batteur Doug Cosmo Clifford parce que le leader John Fogerty les y faisait répéter presque tous les jours. Peut-être plus que tout autre album de Creedence, Cosmos Factory affiche le large éventail d'ingrédients musicaux à la base de leur son swamp rock. Rhythm and Blues, avec des chansons comme Before You Kiss Me and My Baby Left Me, Soul, avec I Heard It Through the Grapevine, ou Long As I Can See the Light, Country, avec Looking Out My Back Door, Rockabilly et Rock'n'Roll classique avec Obie Doobie et Traveling Band, et aussi du psychédélique avec Rumble Tumble, qui est le premier morceau de l'album. Rumble Tumble, justement, ouvre le bal, chanson écrite par John Fogerty et enregistrée à l'origine par Creedence pour faire partie de ce 5e album qui sortira finalement en juillet 1970. Il est connu pour sa longue section instrumentale, je parle de ce morceau, et ses changements de tempo remarquables. La chanson a fait l'objet de critiques élogieuses, le journaliste musical Stephen Hayden l'appelant la chanson la plus rock de tous les temps. Bah, à vous d'en juger. C'était Rumble Tumble par The Creedence Clearwater Revival sur Roxy Web Radio. Avec la chanson suivante, Before You Accuse Me, on trouve une chanson écrite et enregistrée par le musicien américain Bo Diddley en 1957. Elle a été publiée comme face B du single de Bo Diddley, toujours Say Bossman, et a fait partie de son premier album éponyme sorti en 1958. Pour mémoire, Jody Williams joue à la guitare, Willie Dixon à la contrebasse et Frank Kirkland à la batterie. Et ils sont tous à la base de la version de Bob Diddley et aussi un peu ce son si particulier qu'avait ce musicien. Before You Accuse Me a été enregistré 4 fois par Eric Clapton, pour dire que cette chanson a très souvent fait l'objet de reprises. Eric Clapton a enregistré une version électrique de son album de 1989 Journeyman, une version acoustique live de la série MTV Unplugged, sortie en 1992, et deux autres versions électriques publiées depuis 1999 dans des albums dits de compilation. Creedence Clearwater Revival a décidé d'inclure une reprise de cette chanson dans l'album Cosmos Factory. Alors qu'en fait, ils avaient déjà enregistré cette chanson en 1968, c'est-à-dire un an auparavant, lors des sessions d'enregistrement de leur premier album éponyme, c'est-à-dire qui avait le même nom que le groupe. Cependant, cette version originale n'est pas sortie avant son inclusion dans le CD de l'édition du 40e anniversaire de ce premier album en tant que piste bonus. Et en fait, la version que vous allez écouter cette fois-ci, c'est vraiment celle qui a fait partie de l'album, donc Cosmos Factory, et qui change quand même pas mal de cette première version. Someone else. C'était Before You Accuse Me par le Creedence Clearwater Revival sur Roxy Web Radio. La chanson suivante, Traveling Band, voit Creedence renouer avec le rock'n'roll primitif des Blue Velvets, tout en tempo débridé, chant éraillé, saxo tonitruant à la phase domino, et un piano échevelé dans la grande tradition incendiaire prônée par Jerry Lee Lewis, rien que ça. L'ensemble sonne comme un pastiche grisant du Long Tall Sally de Little Richard. Or justement, les ayants droit du géorgien, allumé, on va le qualifier comme ça, le considèrent, quant à eux, comme une vulgaire reprise de Good Golly Miss Molly, déjà reprise sur l'album Bayou Country de Creedence, et intentent aussitôt un procès en plagiat. Un accord financier sera rapidement scellé et il va clôturer le débat. Pour autant, officiellement, Traveling Band est une chanson écrite par John Fogerty et enregistrée à l'origine par Creedence, Clearwater Revival. Soutenu par We'll Stop the Rain, il est l'un des trois singles double face de cet album à figurer dans le top 5 de l'US Pop Single Chart. Et le premier des deux à atteindre la deuxième place du palmarès américain aux côtés d'une chanson que nous allons bientôt entendre, Looking Out My Back Door. Traveling Band a également été un succès au Royaume-Uni, atteignant le 8e rang du classement britannique des singles. De l'aveu de John Fogerty, la chanson lui a été inspirée à la fois musicalement et pour sa prestation vocale par des chansons rock'n'roll des années 50, en particulier celle justement de Little Richard. Les paroles de la chanson décrivent la vie d'un musicien sur la route et la première ligne, 7h37, qui sortent du ciel, fait référence au Boeing 737 qui a ensuite été mis en service sur des liaisons de courte à moyenne portée. L'ancien de la maintenance aéronautique que je suis n'est pas insensible à ce genre d'histoire. La chanson a été reprise par quelques artistes, notamment Elton John qui a enregistré une version de cette chanson au début de sa carrière et Bruce Springsteen qui l'a incorporée à son Detroit Medley lors de concerts à de nombreuses reprises. Jerry Lee Lewis a chanté la chanson avec John Fogerty sur l'album Last Man Standing. Passons donc à Traveling Band. Traveling Band par le Creedence Clearwater Revival sur Roxy Web Radio. Looking Out My Back Door, la chanson suivante, est également une chanson écrite par John Fogerty. Elle est aussi leur cinquième et dernier hit au sein du Billboard, atteignant la deuxième place parmi les chansons tirées de l'album Cosmos Factory et sorties sous forme de single, ou de 45 tours comme vous préférez. Looking Out My Back Door était un hommage direct au son de Baclefield, une forme de musique qui a influencé John Fogerty et le son du Creedence. Buck Owens, l'un des architectes de Baclefield Sound, même mentionné dans les paroles de la chanson. Les paroles de la chanson, en effet, pleines d'images colorées et oniriques, ont amené certains à croire qu'elle était en fait un hommage à la drogue. Selon la théorie de la drogue, la cuillère volante, qui est indiquée dans la chanson, faisait référence à une cuillère de cocaïne ou d'héroïne, et les images d'animaux fous étaient un voyage à l'acide. Or, John Fogerty a déclaré dans des interviews qu'en fait la chanson avait été écrite pour son fils de 3 ans, Josh. Fogerty a également déclaré que la référence à une parade qui passait était inspirée du livre du Dr. Seuss, qui était intitulé « Et pensez que je l'avais vu dans Mulberry Street ». Avec ce morceau, comme avec beaucoup d'autres, Creedence est parvenu à réconcilier tout le monde. Que ce soit les hippies, les bikers, les adolescents, les ploucs, bref, tout le monde s'est retrouvé finalement sous le charme de l'alchimie d'une musique immédiatement accessible, franche et directe, et qui se donne immédiatement tout en jouant sur des pulsions contre. Ça paraît un peu compliqué. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en jouant d'une musique simple, directe, eh bien, le groupe a réussi à s'imposer un peu partout aux États-Unis et assez souvent dans le reste du monde. Terré au fin fond de l'Arkansas, n'importe quel cow-boy d'âge mûr peut battre la musique sur l'entraînant Looking Out My Back Door, ce titre où John Fogerty égrène ses visions enfantines en hommage à son fils Josh et qui est devenu avec le temps la bande-son officielle de tous les piliers de bar du continent. Tandis que les turiféraires à West Coast, y verront une litanie d'allusions subliminales à un trip acide sévère. Allez savoir qui a raison. Just got home from Illinois, locked the front door. Listening to Buck Owens, do, 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 looking out my back door. Tambourines and elephants are playing in the band. Won't you take a ride on the flying spoon? Do, 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 one less apparition provided by magician. Canal de ma bike d'or, regardons par ma porte arrière pour les Creedence Clearwater Revival sur Oxy Web Radio. Avec le single Up Around the Bend et Run Through the Jungle, Creedence applique une méthode mise au point par leur maison de disques. En fait, ils alignent à chaque fois, en réalité, deux faces A plutôt qu'une seule face qui pourrait être un candidat sérieux pour les hits. Et en fait, dans le cas présent, on trouve recto un rock terrien, rappeux, enlevé, appelant de façon plus ou moins subliminale à la révolte, sans pour autant édicter le mot d'ordre ni de désigner un quelconque ennemi. Au verso, en revanche, on trouve une nouvelle Vietnam Protest Song, où les pulsations sourdes de la basse et de la batterie bourdonnent comme une pluie d'obus striant l'horizon. Le tambourin claque comme une rafale de fusil M16 et on progresse dans les marécages à coups de slide de guitare, préparant la bande-son du chaos américain bien avant que Cimino, Coppola et d'autres Kubrick ne viennent se charger de la besogne à travers leurs différents films. Écrite elle aussi par John Fogerty, la chanson Run Through the Jungle, dont le titre et les paroles ainsi que l'année de sa parution, 1970, ont conduit beaucoup de personnes à présumer qu'elle était en fait une chanson destinée à la guerre, dénoncer la guerre du Vietnam. Le fait que des chansons précédentes de Creedence, telles que Fortunate Son, protestaient déjà contre la guerre du Vietnam, a bien sûr renforcé cette conviction. Cependant, dans une interview en 2016, donc très récemment, John Fogerty a expliqué que la chanson parle en fait de la prolifération des armes à feu aux États-Unis. En effet, il se souvenait avoir lu qu'à cette époque, il y avait une arme à feu pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant en Amérique, ce qu'il trouvait stupéfiant. Et il ne doit pas être content de savoir que ça ne s'est pas arrangé. Les effets sonores de la jungle, créés par, selon le bassiste du groupe, Stu Cook, beaucoup de guitares et de pianos enregistrés à l'envers, ont été introduits lors de l'ouverture et de la fermeture de la chanson, et c'est vrai que ça donne une ambiance assez particulière à ce morceau. La partie harmonica de la chanson a été jouée par John Fogerty. La chanson était aussi la préférée de Tom Fogerty, le frère de John, qui disait « Mon air préféré de Creedence était Run Through the Jungle », c'est comme un petit film en lui-même, avec tous les effets spéciaux et sonores. C'était Run Through the Jungle par le Creedence Clearwater Revival sur Oxy Web Radio. Rush on for everyone. Rush on for truth. Pour parler de la chanson précédente, j'avais parlé du single et en disant que sur l'autre face, on trouvait un rock terrien, rappeux et enlevé. Eh bien le voilà, il s'appelle Up Around the Bend. C'est une chanson également écrite par John Fogerty. La chanson a été composée et enregistrée quelques jours seulement avant la tournée européenne du groupe qui a démarré en avril 1970. La chanson a été incluse finalement au dernier moment dans l'album Christmas Factory. Sorti donc en single avec Run Through the Jungle, le single 47 tours a grimpé au 4e rang du classement du Billboard Hot 100 dès le printemps 1970, c'est-à-dire quasiment juste après sa parution. Il a été certifié disque d'or par l'organisme américain chargé des ventes et qui a déclaré que ce single avait dépassé le million d'exemplaires. Ce fut également un succès majeur au Royaume-Uni où il atteignit la 3e place des charts anglais. La chanson commence par un riff de guitare élevé et aigu joué par John Fogerty. Dans les paroles de la chanson, John Fogerty raconte qu'un rassemblement a lieu au détour d'un virage, d'où le titre en anglais « Up Around the Bend » sur l'autoroute et invite l'auditeur à se joindre à lui. La chanson a été reprise par des artistes tels qu'Elton John, qui a enregistré une version de cette chanson au début de sa carrière, et le groupe de rock finlandais Hanoi Rocks, qu'il a ressorti en 1984. La chanson a été présentée dans le documentaire relatant la vie de Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, le film s'appelant Kurt Cobain About the Sun, est également disponible sur sa bande originale. Pour ma part, je dois avouer que ça a été le premier vrai rock que j'ai beaucoup apprécié étant jeune, quand je l'ai découvert. Et je ne cache pas mon plaisir de l'écouter encore régulièrement dans ma voiture ou ailleurs. C'était Up Around the Bend par le Creedence Clearwater Revival sur Oxy Web Radio. Rock me in the cradle, in them old. Sur la deuxième phase de l'album, le groupe s'aventure un peu plus dans l'exercice très en vogue à l'époque de la chanson à message, esquissé auparavant donc sur Herford & Hudson avec Who'll Stop the Rain. Parolier aussi doué que rusé, John Fogerty sacrifie à l'art du protest song sur fond de folk rock, en pointant les dérives d'une Amérique chamboulée par le bourbier vietnamien, en prenant son point de vue favori, celui de l'homme de la rue, de la middle class, critique mais pas révolutionnaire, sceptique mais pas vindicatif, il se tient tout autant à distance d'un gouvernement dont il se méfie, ourdissant des plans quinquennaux et des nouveaux projets emballés avec des chaînes dorées, que du mirage hippie dont il a constaté les limites et les contradictions lors de son passage à Woodstock, en disant cette foule qui tentait de se tenir chaud sous les trombes d'eau, renvoyant dos à dos finalement les paranoïaques de la politique et les adeptes d'un flower power bien naïf. Avec Who'll Stop the Rain, qui sortit en single avec Traveling Band, était l'un des trois singles double face de cet album à figurer dans le top 5 du palmarès Billboard Pop Single dont j'ai déjà parlé. Et le premier des deux à atteindre la deuxième place du palmarès américain aux côtés de Looking Out My Back Door. En 2004, Rolling Stone l'a classé à la 188e place de la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Musicalement, à la différence de Traveling Band, inspiré du rock des années 50, Who'll Stop the Rain dégage une atmosphère plus acoustique et folk rock. Elle est renforcée par les paroles écrites en rentrant de Woodstock, où John Fogerty a vécu assez difficilement les conditions subies par les groupes et le public, ce qui lui faisait penser au bourbier vietnamien créé par les politiques et que les hippies semblaient prolonger d'une autre façon. C'était Who'll Stop the Rain par Creedence Clearwater Revival sur Roxy Web Radio. I heard it through the grapevine, je l'ai entendu à travers les vignes, les rangées de vignes. C'est une chanson écrite par Norman Whitfield et Barry Strong pour Motown Records en 1966. Le premier enregistrement de la chanson à paraître a été produit par Whitfield pour Gladys Knight and the Pips et est sorti en single en 1967. Il a atteint le deuxième rang du chart Billboard. La version de Murphy Marvin Gaye a été placée sur son album In the Groove de 1968, où elle a attiré l'attention des radios disc jockeys et le fondateur de Motown, Berry Gordy. Il a finalement accepté de la sortir en single en octobre 1968, lorsqu'elle a été classée au sommet du Billboard. Le single a passé 7 semaines en haut des charts entre décembre 1968 et janvier 1969 et s'est devenu pendant un temps le plus gros succès du label Motown, Tamla Motown comme certains le connaissent. L'enregistrement de Marvin Gaye est depuis devenu un classique de la soul. En 1964, par exemple, il figurait à la 81e place de la liste des 500 plus grandes chansons de tout le temps, toujours selon Rolling Stone. Tiré sur 11 minutes, I Heard It Through the Grapevine, sacralisé par Marvin Gaye donc initialement, entérine la profession de foi des Californiens de Creedence, celle de se tenir à l'épicentre, comme le souligne Stephen Jesovanier dans la biographie qu'il leur consacre, entre nostalgie conservatrice et modernité subversive, entre le respect du dogme et le désir d'innovation, de repousser les murs sans toucher aux fondations. Position assez délicate, mais où finalement Creedence a su trouver toute sa place. Pour information, les paroles racontent à la première personne les sentiments de trahison et d'incrédulité du chanteur lorsqu'il entend parler de l'infidélité de sa petite amie qu'indirectement par le biais des discussions au milieu des rangs de vignes. Voici I Heard It Through the Grapevine, qui dure près de 11 minutes avec les Creedence.
Some other guy that you knew before. Two of us guys, you know I love you more.
C'était I Heard It Through the Grapevine par les Creedence Clearwater Revival sur Oxy Web Radio. Et c'est ainsi que s'achève la présentation de ce fabuleux album Cosmos Actually. Ce disque constitue pour Creedence Clearwater Revival la carte de visite idéale pour aller conquérir en 1970 le vieux continent, lequel cède aussi facilement de Rotterdam à Paris en passant par l'Angleterre, définitivement annexé, alors que le groupe était jusqu'ici plutôt passé sous les radars du Melody Maker. De retour dans leur foyer californien en mai, il est l'heure pour les musiciens d'enfoncer le clou une fois pour toutes. Pour John Fogerty, le timing est idéal. Il s'est progressivement émancipé de la tutelle de son frère aîné, Tom, pour prendre définitivement les rênes du groupe, qu'il tient désormais d'une main de fer, assurant l'écriture, la composition et la production sans rendre compte à quiconque. Surtout, il apprend la séparation des Beatles, ses rivaux de toujours, ce modèle inaccessible. Cet ogre pose enfin un genou à terre, libérant le champ à une conquête planétaire. On a coutume de dire que l'explication entre les prodiges anglais et le nouveau continent s'était résumée à un match entre les Beatles et les Beach Boys, et que ces derniers avaient fini par perdre. En réalité, la réponse américaine fut bicéphale. D'un côté, la fratrie Wilson des Beach Boys, qui représentent les chimères pop de plus en plus sophistiquées. De l'autre, on trouve finalement John Fogerty et son Creedence Clearwater Revival, qui prennent soin de revendiquer le pré-carré du blues et du rock originel, finalement réexploré par Lennon & Co. à partir du White Album et sur Let It Be, sentant finalement venir la menace. Au final, Cosmos Factory est une véritable somme. Il reste l'album préféré de ses géniteurs et de ses fans, et je suis relativement d'accord avec. La semaine prochaine, je vous parlerai de Fleetwood Mac avec leur début, notamment avec l'album The Pious Bird of Good Woman. Mais d'ici là, parole et blues. Pour finir le créneau, Ma Belle Left Me façon Creedence.